Alors, écoutons-nous sa voix. Écoutons-nous sa voix. Hein? Dieu parle aujourd'hui. Là, il n'y a pas de doute. Écoutons-nous sa voix. Hébreux chapitre 3, verset 12. Et mise en garde, parce que donc ceux à qui il écrivait ses épîtres étaient tombés dans une certaine, un certain danger dans lequel il fallait être exhorté afin de toujours être attentif à la voix de Dieu. Hébreux 3, 12, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. La Bible dit que dans les derniers temps, à cause de l'iniquité qui va augmenter, l'amour de plusieurs se refroidira. Il y a l'appel en Apocalypse chapitre 3 où l'église à Laodicée, il lui dit donc tu penses que tu as tout, mais en fait ouvre tes yeux, tu es nu, tu penses que tu es riche, mais en fait tu es pauvre. Alors je t'invite, donc réponds-toi, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe, ouvre la porte de ton cœur et reconnais donc que je veux continuer donc dans cette relation. Alors la séduction du péché aujourd'hui, ça y va. Donc il y a donc même des églises donc évangéliques dans lesquelles on parle plus de péché, on parle plus de repentance, on parle plus de ce qui peut attrister le Saint-Esprit. Et pourtant la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu en Éphésiens chapitre 4 verset 30. Alors donc il y a vraiment un acharnement contre donc cette vie de droiture, de sainteté que Dieu exige. Sans sainteté personne ne verra le Seigneur. Alors verset 14, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Rappelez-vous que le peuple d'Israël, donc ils allaient vers la terre promise, mais ce n'est pas tous. Tous ceux qui ont quitté Égypte, qui sont rentrés dans la terre promise. Il y a eu un moment dans lequel l'incrédulité est venue, dans lequel la séduction est venue, dans lequel l'idolâtrie est venue, dans lequel donc le péché est venu, et la Bible dit que voilà, il y a eu plusieurs, des milliers de morts qui ne sont jamais rentrés dans la terre promise à cause de l'incrédulité, à cause du fait de ne pas pouvoir tenir jusqu'à la fin. Après s'être retiré, la Bible dit en Hébreux chapitre 10, verset 36, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes ceux qui persévèrent et qui demeurent, alléluia, et bien sûr jusqu'à la vie éternelle, qui demeurent jusqu'au moment où le Seigneur nous appellera à sa présence. Mais écoutons-nous sa voix. Dieu parle aujourd'hui. Le psaume 19 nous dit que Dieu nous parle premièrement par la création. Les personnes qui disent que Dieu n'existe pas et qui regardent donc l'étendue, les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Alors on ne peut pas nier le fait qu'il y a un créateur donc qui a révélé d'une manière naturelle son existence et sa création. Bien sûr, nous savons que la Bible est la révélation divine. La révélation naturelle, c'est la création. La manière comme Dieu parle, il a parlé par les prophètes. Il a choisi aujourd'hui de nous parler par le Fils. La révélation divine, la parole divine de Dieu qui est Jésus, qui est donc la parole écrite qui est dans nos cœurs. Mais ici, dans le psaume 19, nous continuons à voir au verset 8, la loi de l'Éternel est parfaite. Donc les cieux racontent la gloire, il se fait connaître par la création, mais ensuite la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe. La récompense est grande. Intéressant à noter que nous avons tout en lui. Nous avons tout en lui. La création nous révèle son existence, mais nous avions besoin de la révélation divine pour nous montrer que nous avions besoin d'un sauveur. Nous avions besoin d'un sauveur. Et aussi, nous continuons à lire au verset 13, « Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ce que j'ignore. » La Bible dit que le cœur de l'homme, il est tortueux et dur au-dessus de toutes choses. Le cœur de l'homme, il est tricheur. C'est le cœur de l'homme. C'est pour ça que le cœur de l'homme, nous avons chanté « Je te donne mon cœur ». C'est pour ça que le cœur de l'homme doit être transformé, doit être changé, alléluia, pour la gloire de Dieu. Mais il dit « Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ce que j'ignore. » Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qui ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent des grands péchés. Et là il dit, alors reçois ma louange, reçois favorablement les paroles de ma bouche et le sentiment de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Dieu parle. Quand il parle, il nous invite à ouvrir nos cœurs afin qu'il puisse nous sonder nos cœurs. Vous connaissez ce passage dans le psaume 139. Une fois qu'on a décrit la création de chaque être humain, comme quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et dans ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés. J'ai parlé avec Marc quand il est tombé malade, gravement malade, il y a 3 mois. Et déjà, on avait lu le psaume 139 ensemble. Et il m'a dit, Marc, moi, je vais continuer à préparer des études bibliques. Moi, je vais continuer à témoigner. Je vais continuer à être fidèle dans ce que le Seigneur a pour moi. Mais si mes jours arrivent, alors, fin, alors, je suis prêt. Il était déjà prêt, avec un grand sourire, avec une paix profonde dans son âme. Et dimanche, donc, quand j'ai parlé avec lui, et qu'il s'endormait tous les 5 minutes, et après il revenait, et il disait, ah oui, je suis là encore, et je lui disais, mais tu sais, ta vie est entre les mains de Dieu. Oui, je sais que ma vie est entre les mains de Dieu. Alors, quand nous avons cette espérance, alors nous ne pouvons pas ajouter des jours auxquels, si le Seigneur a déterminé quels sont les jours qui nous sont destinés, laissons-le faire. Amen. Laissons-le faire et vivons-les pleinement pour la gloire du Seigneur. Mais le verset 23 nous dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le psaume 1 nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon la pensée de ce monde, mais plutôt il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont ce feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Être à l'écoute de sa voix. Savoir que Dieu veut nous parler. Quand on permet qu'il nous parle, nous allons premièrement regarder vers le haut. Regarder vers le ciel. Avoir un regard vers la création, vers l'inspiration de Dieu. On va avoir toujours un regard rayonnant. Quand on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. Malgré les circonstances, malgré les preuves, malgré les mauvaises nouvelles, malgré la mauvaise note à l'école, donc à l'université, malgré ce que les professeurs ont dit, malgré ce que les parents ont dit. J'ai parlé avec quelqu'un cette semaine et donc j'ai compris que sa vie avait été marquée par des paroles. Vous vous rappelez, on a parlé de ça il y a quelques dimanches. Comment nos paroles sont tellement encourageantes. Comment nos paroles doivent être toujours édifiantes. Comment nous devons prendre exemple sur nos ancêtres bibliques, dans lesquels chaque fois qu'ils ouvraient la bouche, c'était pour dire, le Seigneur nous accompagne, Dieu pourvoira, je puis tout donc en celui qui me fortifie. Et ainsi de suite, il y avait toujours une parole qui poussait à vraiment donc se dire, le Seigneur est présent. Alors regardons vers le haut. Regardons vers le haut. Ensuite, regardons vers le bas, c'est-à-dire, lisons, méditons la parole de Dieu. Laissons que les paroles de Dieu, que la parole de Dieu nous parle. Les gens disent aujourd'hui, il y a de la parole de Dieu dans la Bible. Non, ici on dit, toute la Bible est inspirée de Dieu. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Il y a des personnes qui disent, non, mais cette partie-là, on ne la comprend pas bien. Dans certains mots, ils se sont trompés, il y a des contradictions. Oui, s'il y a des gens qui veulent chercher des contradictions, ils pourront sortir des versets du contexte et dire, ça se contredit par rapport à ce qui est dit là-bas. Toute la Bible est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour corriger, elle est utile pour encourager, pour exhorter. La parole de Dieu, elle est inspirée de Dieu. C'est toute la Bible. Les 66 livres que nous avons ici, c'est toute la Bible. Et c'est pour ça que je vous ai déjà dit, mais pendant l'été, j'ai lu donc plusieurs livres de la Bible, plusieurs prophètes majeurs, mineurs, et chaque fois que je voyais la phrase « Ainsi parle l'Éternel », j'ai donc souligné et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que l'Éternel voulait dire. Comment il nous parlait au travers des prophètes. La Bible dit en Hébreux chapitre 1 que dans les temps, il nous parlait par les prophètes. Il nous parlait par les diverses manières. Aujourd'hui, il a choisi de nous parler par son Fils. Donc on regarde vers le haut, on regarde vers le bas, parce que nos yeux sont fixés sur cette lampe, fixés sur cette roc, sont fixés sur ce marteau qui divise la pierre en deux, la Bible dit, sont fixés sur le miroir de la parole. Et aussi, regardons vers l'intérieur. Permettons que notre cœur, notre âme, nos pensées soient donc éclairées par le Saint-Esprit. Chaque fois qu'on lit un verset de la Bible, même si tu le connais par cœur, ici on est mémorisé. Et je vous ai déjà dit qu'à partir du mois de janvier, on va lancer un défi pour mémoriser 2 versets par semaine. En 52 semaines, on va mémoriser 104 versets. Et alors, Dieu va nous parler au travers de ses paroles. Dans le passé, on a déjà mémorisé Éphésiens, Colossiens, Jean 13, 14, 15 et 16. On a déjà mémorisé des psaumes, plusieurs psaumes. Dans notre église, on aime la mémorisation. Pourquoi ? Parce qu'on a nos regards fixés sur la parole. Mais aussi, chaque fois qu'on regarde vers la parole, immédiatement, on regarde vers l'intérieur et on voit l'œuvre du Saint-Esprit qui s'accomplit en nous. Quand tu dis que rien ne se passe, quelque chose se passe. Quelque chose est en train de se passer dans ton cœur maintenant. Pendant le temps de louange, quelque chose est en train de se passer dans ton cœur. Mais alors, comment être à l'écoute de sa voix? Comment être sûr que je suis en train de percevoir le son de sa voix? La Bible dit en Jean chapitre 10 que ses brebis connaissent sa voix. Et ils ne reconnaissent pas la voix d'autrui. Il ne se laisse pas distraire par la voix d'un autre. Il connaît sa voix. Nous devons être tellement synchronisés avec lui que le moment qu'il nous parle, immédiatement, comme Samuel, nous disons, encouragé par Élie, nous disons, parle car ton serviteur écoute. Parle Seigneur, viens me parler. Alors, quelles sont ces disciplines que nous devons appliquer à notre vie? Quelles sont ces disciplines? Lecture de la Bible, premièrement. La lecture de la parole. Dans un contexte de prière, bien sûr. Matthieu 4, Jésus était tenté par le diable. Vous vous rappelez, Jésus avait jeûné 40 jours et 40 nuits. Et le diable vient et commence à le tenter. Et Jésus lui répond, il lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et là, le diable a insisté. Et encore, Jésus lui dit, il est écrit. Et le diable a insisté une troisième fois. Et encore, il lui dit, il est écrit. Le diable l'a tenté dans les domaines d'appétit. Hein, il avait faim. D'appétit. Il aurait pu avoir un appétit de pouvoir. Bien sûr, Jésus ne l'avait pas. Mais il a pensé qu'il allait toucher toutes les différentes facettes. Facettes de sa vie. Et à chaque fois, Jésus lui répondait, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Et après la Bible dit que le diable est parti pour un temps après, parce que lorsqu'il était au jardin de Gethsémané, lorsque Jésus était en souffrance, le diable était aussi dans les parages pour essayer de le décourager, pour essayer donc de le charger, donc voilà, des pensées pour le décourager, etc. Mais c'est sûr que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il faut la lire. Il faut absorber la parole. Il faut l'intégrer à notre vie. Il faut la mémoriser. Il faut la mémoriser afin que notre intelligence soit renouvelée. Vous connaissez tous Romains chapitre 12, verset 1, verset 2. On espère que, donc, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable devant Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas à ce siècle présent, ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. Et ainsi vous connaîtrez ce qui est bon, agréable et parfait, la volonté de Dieu. La pensée renouvelée. L'intelligence renouvelée. Savoir que oui, comme on a lu dans le psaume 19, la parole de Dieu, elle est vivante. Et elle agit en nous. Hébreux chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est plus pénétrante qu'une épée à double tranchant. Et elle vient pour discerner les pensées, les intentions de notre cœur. La lecture de la parole. On ne peut pas être en bonne santé spirituelle sans avoir une habitude de lire la parole de Dieu. Il y a des personnes aussi, donc, qui vont prendre l'habitude d'écouter la lecture de la parole de Dieu. C'est très bien. Dans le métro, tu peux écouter, donc tu fais une heure de route, tu peux écouter au moins 10 psaumes, ou je ne sais pas combien, même des livres, donc, des cours libres, soit les prophètes mineurs, soit donc des livres du Nouveau Testament. Mais la lecture de la parole, c'est le fait d'être imprégné de la parole de Dieu. Ensuite, c'est la méditation de la parole. Ce n'est pas seulement, donc voilà, j'écoute. Mais alors, comment est-ce que je la médite? Comment est-ce que je vais ruminer? Comment est-ce que je vais donc comprendre comment l'appliquer à ma vie? Josué chapitre 1 verset 8, on connaît tous. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi, la parole de Dieu, on la médite. Prenez les habitudes. Que vos résolutions donc, pour l'année donc 2019 soient vraiment donc, d'être imprégnés de la parole. Passez du temps à la méditer. Vous savez, ceux qui pratiquent, donc, je sais que beaucoup de gens disent, ah, ça c'est zen. Ceux qui pratiquent donc, le yoga, donc, auquel est attaché le mot zen, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils font à un moment donné? Ils vont se mettre en position pour pouvoir vider leur esprit. Imaginez. Ils vident leur esprit. Et après, je sais pas, ils pensent aux choses, aux belles choses, ils imaginent, donc, voilà, un beau paysage, etc. Ils doivent donc imaginer, méditer sur ce qui est du bonheur, hein, ça c'est le bouddhisme, etc. Mais alors, quand ils vident leur esprit, vous imaginez les dangers que ça implique. Et si les personnes, bien sûr, ils vident leur esprit, et ils vont se remplir avec quoi? Ils vont se remplir avec ce que le diable va leur envoyer. Alors nous, on ne vide jamais notre esprit, mais on remplit notre esprit de la parole de Dieu. La Bible dit en Jacques chapitre 1 que chacun est tenté quand il est amorcé, quand il est attiré par la convoitise. Et une fois que la convoitise donne lieu donc à un acte, c'est le péché, c'est la condamnation. Mais si nous on est rempli de la parole de Dieu, quand la tentation arrive, alors la tentation elle est repoussée et nous sommes encouragés à faire face en tant qu'être spirituel que nous sommes, et avec la méditation de la parole, avec la vérité pour ceinture, vous savez, donc en Ésaïe chapitre 6, on parle des armes spirituelles. Et les armes spirituelles décrivent à un moment donné une ceinture de vérité. Et pour moi, la ceinture de vérité, c'est justement la ceinture dans laquelle il y a des balles de réserve, dans laquelle une fois que les balles dans la mitrailleuse voilà, sont épuisées, on prend encore des réserves. Et pour moi, ça c'est la mémorisation. Une fois que j'ai oublié quel était le message de dimanche dernier, je ne me rappelle plus, là j'ai des versets donc, par cœur que je vais sortir et que je vais faire savoir à l'ennemi que je suis plus que vainqueur et toujours plus que vainqueur. La méditation de la parole, jusqu'à voir la révélation du Père, jusqu'à voir un moment dans lequel le Saint-Esprit nous visite et que la volonté de Dieu commence à s'accomplir en nous parce qu'on ne fait que méditer sa parole. La prière. Vous savez combien de temps on pense, dans un sondage, qu'on passe en la prière par jour? Hein? Pas par jour. 7 minutes par semaine. Ah non, mais moi je prie tout le temps. Je suis toujours en prière. Non. Prendre un temps, séparément, pour entrer en dialogue avec Dieu. Rentrer en dialogue. Nous présenter devant lui. Lui demander une audience. Vous rappelez quand Esther, la fameuse phrase, si je péris, je périrai. Mais elle est rentrée dans la présence du roi, sachant que si le roi ne lui donnait pas audience, c'était sa mort. Mais elle a pris le risque. Elle est venue devant le roi. Et quand le roi a donc élevé son sceptre, elle a compris qu'elle avait été acceptée. Quand on vient devant Dieu, on lui demande une audience. Dans cette audience qu'il va nous accorder, car ses oreilles sont toujours prêtes à nous écouter, La seule chose qui peut fermer son oreille, l'Ésaïe chapitre 59, ça peut être notre péché, ça peut être notre rébellion, ça peut être une attitude non pardon ou quelque chose. Ça pourrait donc mettre un mur entre nous et Dieu. Mais il est toujours attentif, la Bible dit. Alors, nous rentrons dans un dialogue avec lui. C'est ça la prière. C'est pas seulement Seigneur, bon, je suis dans un problème. Je me tourne vers toi, je prie, oui, je vais passer 20 minutes en pensant, et je vais dire, et voilà, je me rends à l'hôpital pour un rendez-vous, je vais prier, mais vraiment prendre le temps pour être en dialogue avec lui. 2 Samuel chapitre 7, verset 25, nous parle d'une prière qui a été exprimée. Et vraiment, on comprend exactement quelle était l'interactivité dans cette prière. 2 Samuel chapitre 7, et verset 25. Maintenant, éternel Dieu, fais subsister jusqu'à dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Déjà, posons-nous la question. Jérémie, Dieu avait prononcé des paroles sur lui, et Jérémie va se soumettre à ce que Dieu accomplisse la parole qu'il a prononcée sur lui. Je te pose la question, est-ce que Dieu a déjà prononcé des paroles sur toi? Est-ce que Dieu a déjà prononcé des paroles sur ta famille? Est-ce qu'il y a des paroles, en lisant la parole, que tu as senti, c'était vraiment pour toi, et tu t'es accroché à cela, et tu as senti que vraiment c'était dirigé vers toi? Alors ici, il dit, Éternel, tu as prononcé des paroles sur ton serviteur, sur sa maison, agis selon ta parole. Que ton nom soit jamais glorifié, et que l'on dise l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël, et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur Éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur Éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Quand on voit la manière comment David parlait à Dieu, comment il y avait dans cette relation, cette confiance. Néhémie chapitre 1 verset 5, Néhémie avait entendu des mauvaises nouvelles. Il avait entendu dire que les murailles de Jérusalem étaient démolies, étaient détruites. Alors il était chansonnier du roi, il était très occupé dans ses fonctions, etc. Et alors, à un moment donné, quand il a su ça, le verset 4 nous dit, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur. » T'adresse en ce moment jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. En confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons pas observé tes commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté, par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors les chansons du roi. La prière. Vous savez, la Bible dit que lorsqu'on prie, on comprend qu'on a tout en lui. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 et verset 4 nous dit que nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons tout dans la parole sur laquelle nous fixons nos regards, laquelle nous lisons, laquelle nous méditons. Mais nous avons tout, il est celui qui pourvoit. Jéhovah Jiré, celui qui pourvoit. Nous avons tout ce qui contribue à la vie et la piété. Et par ses promesses, nous devenons participants de sa nature divine. Nous avons tout. Alors dans la prière, sa grâce qui vient pour éveiller notre âme à sa présence. Le dialogue. Le dialogue. Alors, je ne sais pas à quel moment tu aimes prier. Je ne sais pas à quel moment tu aimes prendre ce temps pour être en dialogue avec lui. Mais il ne faut pas que ça soit un monologue. Il faut vraiment que ça soit vraiment, voilà, un répondant. Et tu attends, et tu dis quelque chose, et après tu t'arrêtes. Et il va parler à ton cœur. Il va te rappeler d'un verset. Tu vas sentir qu'il parle à ton cœur, qu'il vient pour te rassurer. Tu vas le vivre d'une manière particulière. Chacun le vit d'une manière particulière. Mais je vous assure, quand on s'arrête et quand on est là pour entendre, il parle. Dieu parle, Dieu nous rassure, Dieu nous ramène vers ses promesses. Il nous fait comprendre qu'il est à l'œuvre en nous. Alors, est-ce que vous avez un journal de bord spirituel? Est-ce que vous avez l'habitude de noter des choses? Est-ce que vous avez donc un désir de vous rappeler un historique de ces exaucements? Moi, j'avais ma Bible qui m'a été volée il y a à peu près 4 ans maintenant. Donc, j'avais, depuis mon arrivée en 81, c'était une Bible où j'avais noté tellement de dates et tellement de choses. J'essaie de me rappeler donc, avec celle-ci de certaines dates et j'essaie de les renoter. Mais alors, j'avais écrit des moments précis dans lesquels je me sentais vraiment dans la fournaise ardente et que Dieu était venu pour exaucer. Alors, combien de fois nous voulons nous rappeler pour dire, oui, le Seigneur a été bon. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Le psaume 145, versets 5 à 6, psaume 145, versets 5 à 6 nous dit que l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Pardon, 145, 5 et 6, oui. Verset 4, que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de son immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Sa splendeur. On écrit des choses. Un journal de bord spirituel. Des exaucements ponctuels. Des moments dans lesquels la réponse a été non. Mais quand même, le Seigneur a été si un gentleman avec nous. Il s'est révélé à nos cœurs, même si la réponse était non. Même si la réponse était attend. Et qu'on a attendu, qu'on a attendu, qu'on a attendu. Et peut-être au bout de cette attente, il y a eu donc un exaucement. Mais combien de fois au bout de l'attente, il n'y a pas l'exaucement auquel nous on s'attendait. Mais quand même, Dieu est toujours fidèle. Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Tout à l'heure, quand on a commencé le culte, j'ai lu en Job 33. Et je lisais, « Ô Seigneur, ne permets pas qu'il aille dans la fosse. Donne-lui la vie. » Et je lisais par la foi, parce que jusqu'au moment où on m'appellera pour me dire que Marc est parti auprès du Seigneur, il est toujours vivant. Mais j'étais bien conscient en lisant ces versets que lui, il ne va pas dans la fosse. Lui, il va vers la vie éternelle. Alléluia. C'est différent. Je sais que mon Rédempteur est vivant, hein? Et que même il me ressuscitera le dernier jour, disait Job. Alors, un journal de bord, hein? Un petit journal, un petit livret dans lequel on écrit les choses. Et quand on se rencontre avec nos frères et sœurs, on raconte ce que le Seigneur a fait pour nous. Qu'est-ce qu'il dit en Malachie? En Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament, le dernier des 12 prophètes mineurs qui sont tellement difficiles à mémoriser dans l'ordre, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il dit au verset 16 chapitre 3? Alors, ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Il prend note de nos conversations lorsque nos conversations, j'imagine, glorifie son nom. Lorsque nos conversations racontent sa fidélité, lorsque nos conversations racontent comment il nous a gardés dans l'épreuve, comment il nous a maintenus fermes malgré les circonstances, il prend note de tout ce qu'on s'est dit. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent entre eux, et l'Éternel écrit ça dans son livre de souvenirs. Je vous encourage, ayez un petit livre de souvenirs. Le jeûne, le fait de jeûner. On entend dans la Bible à plusieurs reprises des convocations données au peuple de Dieu de se rassembler pour jeûner ensemble. Deux Chroniques, chapitre 20 et verset 1, nous donne un de ces exemples. Deux Chroniques, chapitre 20 et verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On va en informer Josaphat en lui disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar qui est en Enguedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. C'est très intéressant. Lisez l'histoire de Asa. Aussi, c'est un autre qui a obliger le peuple à jeûner, parce que sinon, il n'y avait pas d'autre recours. Ok ? Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'il a jeûné ? Verset 15 du chapitre 20. « Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » C'est ça la réponse. C'est ça la réponse. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Imaginez, Dieu lui donne donc le secret de ce que l'ennemi va faire pour savoir comment se défendre. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre la terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Qu'est-ce qui se passe quand on jeûne? Matthieu 6. On se réfère souvent à Matthieu 6, puisque c'est là où se trouve la prière de Jésus, donnant l'exemple à ses disciples de comment prier, notre Père qui est aux cieux. Mais Matthieu 6, il y a trois reprises des instructions données dans notre interaction avec Dieu. Premièrement, le verset 6, « Si tu fais l'aumône, verset 3, pardon, que ta main gauche ne sache pas ce qui fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, quand il y a un pharisien ou un sadducien qui se dirigeait vers la synagogue, quand il sortait de chez lui, il y avait des personnes devant lui qui jouaient la trompette pour dire « Voilà, il se rend à la synagogue !» Alors tout le monde savait comment ils étaient, les sadduciens et les pharisiens. Alors c'était pas vraiment un exemple. Mais alors il dit « Mais ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Les gens vont leur faire des éloges et ils vont les applaudir. Mais quand toi tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Verset 16, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. » Pourquoi ? Parce que les hypocrites rendaient leur visage tout défait. Hein? Voilà, bon, il y avait ceux qui se mettaient de la cendre, etc. Bon, ça c'était clair et net qu'ils étaient en train de s'humilier, ça c'est autre chose. Toute la ville de Ninive, ils se sont tous mis de la cendre, ils se sont tous humiliés, ils étaient vraiment donc, dans l'humiliation devant Dieu. Mais quand toi tu jeûnes, ne prends pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils vont recevoir leur récompense. Mais quand toi tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Okay? Alors quand on fait un jeûne collectif, comme celui qu'on essaye de mettre en place donc tous les deuxièmes dimanches du mois, on est censé, voilà, peut-être avoir jeûné deux repas ce jour-là, pour vaquer à la prière, pour se donner un temps pour chercher la face de Dieu, pour nous humilier dans sa présence, essayer de comprendre sa volonté. Alors, est-ce que tout le monde doit savoir, est-ce que tu jeûnes, est-ce que tu ne jeûnes pas? Bon, ça c'est entre nous et Dieu. Mais bien sûr, on est censé, si on va faire trois jours de jeûne et prière, on est censé que presque tout le monde qui assistera à ces trois jours va être dans le jeûne et la prière, s'il le peut. Il y a des personnes, à cause des maladies, ne peuvent pas. Une femme enceinte ne va pas faire de jeûne. On ne va pas obliger un enfant à faire du jeûne parce que les parents donc, vont jeûner, etc. Donc il faut être vraiment sage. Et ça c'est tout un enseignement hein, qui peut être donné par rapport au jeûne. Mais ce qui est important, c'est que dans le jeûne, on s'abstient des appétits charnels, le manger. Aujourd'hui, quand on jeûne, on doit aussi éteindre les réseaux sociaux, éteindre les téléphones, vraiment, parce que sinon on est distrait constamment. Hein, donc, si on est en train de jeûner et prier, constamment on est en train de voir si nous ont répondu le texto, etc. Bon, bref, là, donc ça c'est un appétit aussi. Et aussi même l'aspect conjugal pour les couples mariés. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 7 que l'homme doit à la femme sexuellement ce qu'il lui il doit donc rendre ce qu'il lui doit. La femme doit aussi rendre ce qu'elle doit. Et ils ne doivent pas s'abstiner l'un de l'autre, sauf si d'un commun accord ils vont le faire pour vaquer à la prière. C'est-à-dire, ils vont même renoncer à cet appétit qui est charnel, qui est humain, donc pour se donner entièrement à la prière. Alors bien sûr, faites très attention parce que dans l'histoire de l'Église, il y avait des femmes ou des maris qui étaient chrétiens et le mari ou la femme n'étaient pas chrétiens. Et alors lui, il disait, non, mais Dieu m'a dit que moi je vais jeûner pendant plusieurs jours. Donc tu ne me touches pas. Une personne non convertie ne va rien comprendre. Hein. C'est ensemble pour vaquer à la prière. Donc je touche simplement ce sujet rapidement. Mais c'est des appétits, c'est un sacrifice qu'on va offrir à Dieu dans le but de se concentrer sur lui. Dans le but d'entendre sa voix, dans le but de nous humilier et de chercher sa face. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on jeûne, on ne pense à rien d'autre qu'à lui. On ne pense à rien d'autre qu'à lui. Et quand on fait ce jeûne collectif, et certainement donc, au printemps, on aura un moment des trois jours de jeûne et prière, comme on l'a fait dans le passé. C'est des bonnes habitudes qui doivent être pratiquées au sein d'une église locale. C'est sûr. Donc il y a des moments dans lesquels on va passer du temps jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous visiter. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous toucher. Jusqu'à ce que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. Il faut passer du temps. Il faut attendre. Moi je me rappelle quand on était jeunes au Mexique. On était une quarantaine de jeunes dans le village dans lequel on a grandi. Et des fois après le groupe des jeunes... Donc voilà, les jeunes n'arrivaient pas donc à la maison à 10h, à 11h. Et les parents venaient à l'église et on était tous vraiment dans des temps de visitation des dieux. Ça durait jusqu'à 2h, 3h du matin des fois. Mais on ne pouvait pas bouger, on était visités par lui. On a reçu vraiment des directives, des instructions de sa part. Et aujourd'hui, de ces 40, il y a une trentaine qui servent le Seigneur mais dans le monde entier, dans des différents endroits, surtout au Mexique. Mais alors qu'ils sont complètement engagés avec l'Évangile, engagés à faire des disciples et dans leur travail. Et quelques-uns en tant que pasteur, d'autres en tant que missionnaire. Mais alors je vais vous dire, on a passé du temps dans le jeûne et la prière et Dieu nous a visités. Alors, Dieu nous a visités et il promet qu'il va nous visiter. Mais il faut qu'on prenne le temps de passer un moment à dire, Seigneur, je ne bougerai pas que si tu ne m'es béni, comme a dit Jacob. Je ne me lèverai pas si tu ne m'as pas béni auparavant. Et aussi, prendre le temps pour reconnaître le temps de sa visitation et de sa présence. Nous sommes dans la présence du Seigneur. La présence de Dieu est en nous. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais il y a le moment quand il va manifester sa présence. Et c'est un peu plus long parce que des fois, voilà, on voit des conventions, on voit des réunions particulières, donc sur Internet, on voit des miracles, on voit ci, on voit ça, et on aimerait tellement voir qu'il y ait une manifestation visible, voilà, de la présence des dieux, et qu'il y ait toujours les prodiges, les miracles et les signes. Mais rien n'empêche. Passons plus de temps à genoux, et plus on passe du temps à genoux, le Seigneur va se manifester. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Mais la visitation, donc sa présence invisible et sa provision dans notre vie. Savoir que lui, il donne et il doit avoir le contrôle sur tout aspect de notre vie. Et c'est là quand il se manifeste en nous, quand il se manifeste dans notre entourage, quand il vient donc se glorifier en nous, c'est là où on reconnaît la manifestation de sa présence. On est toujours dans sa présence. Il y a des fois, dans un moment de louange, on peut sentir vraiment, on est attiré, on sent un appel particulier, on se met à genoux, ou quelque chose, et on veut vraiment reconnaître ce temps de visitation de la part de Dieu. Mais gardons vraiment en tête, le Seigneur veut se manifester. Exode 33, verset 13. Moïse disait, alors, sans ta présence, il n'y a pas d'action. Hein? Exode 33 et verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Dans le Nouveau Testament, il dit, être connu de Dieu et connaître Dieu. Être connu de lui. Romains chapitre 8 nous dit que nous sommes ses enfants. Et en tant que ses enfants, nous sommes conduits par l'Esprit des dieux. Et nous avons reçu un esprit par lequel nous crions « Abba Père ». Ce n'est pas un esprit d'esclavage, mais c'est un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Nous sommes en relation avec lui. Il se manifeste en nous. Ésaïe 6, verset 10 et verset 11, nous dit aussi que lorsque nous le cherchons, il viendra se manifester. Ésaïe 6 et verset 10. Bon, vous connaissez donc le passage. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je, verset 8, qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Je dis, alors va et dis à ce peuple, vous entendrez, vous ne comprendrez point, vous verrez, vous ne saisirez point. Excuse-moi, je me suis trompé, c'est 61, 10. Désolé. Ésaïe 61 et verset 10. C'est là. Je me réjouirai en l'Éternel. Voilà. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé sort d'un diadème, comme le fiancé se part de ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, comme un jardin fait pousser ses semences. Ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. C'est encore l'âme qui est touchée, l'âme qui est transformée. Ne manquons pas au rendez-vous. Ne manquons pas au rendez-vous. Il a un rendez-vous. Il vous rend nos oreilles sensibles et ouvertes. Et comme Élie, une fois qu'on a été à l'écoute de Dieu, Élie était un homme de Dieu. Là, quand Dieu a parlé à Samuel, c'était pour corriger Élie. Mais Élie, quand même, c'était un sacrificateur, c'était un homme de Dieu. Et Élie a su dire et exhorter Samuel, la prochaine fois que tu entends cette voix, dis, parle, car ton serviteur écoute. Et alors maintenant, le Seigneur attend notre réponse. Et notre réponse, c'est qu'il est notre berger et que nous suivons sa voix, que nous suivons ses pas et que nous reconnaissons quand il nous parle. Seigneur, ce matin, nous avons un grand besoin de toi. Seigneur, nous comptons sur toi. Sans toi, nous sommes en rien. Nous sommes dans le désespoir, nous sommes dans le désarroi. Seigneur, quelle réponse donner à ce monde d'aujourd'hui? Seulement la réponse qu'on recevra lorsqu'on passe le temps pour que tu parles à nos cœurs. Et tu parles. Seigneur, si tu parles, sommes-nous à ton écoute. Et si nous sommes à ton écoute, alors tu pourras compter sur nous. En tant que tes ambassadeurs, en tant que tes serviteurs, en tant que membres de ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que si on prend le temps, si on prend le temps, quelle est la preuve qu'on aime quelqu'un? Passer du temps avec lui. Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons. Aide-nous, Seigneur, à prendre ce temps pour développer cette sensibilité à ta voix, afin que nous puissions mûrir en toi, mûrir dans ta grâce. Et Seigneur, grandir en toi constamment. Et qu'on puisse toujours avoir une réponse qui édifie, qui encourage. Et qu'on puisse toujours aussi avoir une réponse pour répondre avec douceur et respect devant quiconque nous demande concernant l'espérance qu'il y a en nous. Continue à nous parler. Et que tout au long de cette année à venir, et qu'on puisse se préparer dans ces semaines à venir, que l'année prochaine, Seigneur, nous allons être si à l'écoute de ta voix, afin, Seigneur, que tu accomplisses ta volonté dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Parle, car tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus. Amen.